Bonjour à tous et à toutes, nous sommes en compagnie de Claude Rémy, président d'Arnica Montana. Bonjour.
Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'incendie du Bois de France à Largentière-l'Abbessée, des cendres au retour de la vie. En juillet 2003, a eu lieu près de Largentière-l'Abbessée un des plus grands incendies du département des Hautes-Alpes. Cet incendie reste encore dans la mémoire des habitants de l'Argentiérois et du Briançonnais. Un an après, notre association Arnica Montana décide d'étudier pendant plusieurs années la recolonisation végétale et animale suite à l'incendie. Et cette étude se poursuit actuellement. Le 7 juillet 2003, des travaux sont en cours sur le talus de la route nationale 94 au sud de Largentière-l'Abbessée. Une disqueuse projette une étincelle qui embrase les broussailles. Très rapidement, le feu, poussé par une brise ascendante très forte, se propage au boisement supérieur sec et chaud du Bois de France dans le massif des Aiguillons. Les flammes passent sous la ligne à haute tension et progressent dans un bruit sourd résonnant dans la vallée. Les pompiers au sol rencontrent de nombreuses difficultés, essentiellement dues au relief accidenté. Quatre Canadairs interviennent, mais seulement à la tombée de la nuit, alors que l'incendie a déjà parcouru plusieurs dizaines d'hectares. Le 8 juillet, la brise réactive le feu qui reprend une rapide progression après s'être légèrement calmé la veille. Plusieurs pompiers travaillant dans la partie basse du massif sont encerclés par les flammes et doivent leur survie à la rapidité du passage de l'incendie. Plusieurs d'entre eux sont blessés, un véhicule est complètement carbonisé. L'extension du feu est contenue le 9 juillet grâce à l'intervention répétée des canadairs et hélicoptères, des bombardiers d'eau et porteurs d'unités de sapeurs. Jusqu'au 18 juillet, ces hélicoptères, des commandos de pompiers et de forestiers, doivent intervenir pour éteindre des reprises spontanées de feu à partir de souches incandescentes qui sont disséminées dans toute la forêt. Ce n'est que le 28 juillet que les dernières fumerolles seront éteintes. En tout, ce sont 213 hectares qui sont dévastés par le feu, essentiellement sur la commune de Largentière-l'Abbessée, mais également sur celle de Saint-Martin-de-Carrières et de La Roche-de-Rame. Quelles ont été les conséquences environnementales de l'incendie? L'impact paysager est évident. Les troncs d'arbres complètement calcinés restent dressés comme des poteaux. Beaucoup s'effondreront rapidement les premières années. La surface du sol brûlée laisse apparaître un désert de cendres. La végétation est évidemment complètement détruite, seuls restent quelques îlots d'arbres non ou moins touchés. Il est difficile de quantifier la mortalité de la faune par l'incendie. Certains animaux peuvent fuir, c'est le cas par exemple des oiseaux bien entendu, mais leurs nichées périssent dans les flammes. La majorité des reptiles, amphibiens, hérissons ne survivent pas. La litière, c'est-à-dire les feuilles mortes, et l'humus brûle totalement dans les couches superficielles. Les cendres qui restent sur place sont riches en sels minéraux, phosphore, potassium, calcium, et ce qui a un effet fertilisant, mais cet effet fertilisant ne dure que 1 à 2 ans. En effet, la couche de cendres est menacée par l'érosion et l'eau de pluie. Le sol perd sa structure, ce qui entraîne des risques de glissement de terrain. D'autant plus que la destruction du couvert végétal augmente les dangers d'érosion, notamment au niveau des berges. La menace de ravinement, de coulées boueuses est augmentée dans un secteur déjà sensible à ces risques naturels. Heureusement, l'absence de fortes précipitations après l'incendie a permis d'éviter des catastrophes pour les habitations situées en contrebas. Plusieurs falaises sont situées dans la forêt au-dessus de l'agglomération de Largentière-l'Abbessée. Les températures élevées ont fragmenté certains blocs, entraînant un risque d'éboulement que la forêt, en grande partie détruite, ne pourra pas arrêter. Rapidement, dans les secteurs les plus sensibles, des arbres brûlés sont abattus et disposés parallèlement aux courbes de niveau pour limiter les risques d'érosion, c'est ce qu'on appelle des fascines. Alors, quel était le type de forêt du Bois de France avant l'incendie? Il s'agissait essentiellement d'une forêt de pins sylvestres, qu'on appelle une pinette sylvestre, sur un sol calcaire, avec comme plante caractéristique, plante herbacée caractéristique, l'ononis à feuilles rondes, qui est une plante de la famille des pois, dont les feuilles sont constituées de trois parties rondes appelées folioles. La fleur est blanche, veinée de rose. Le pin sylvestre représentait 43% des arbres avant l'incendie. Le pin crochet, 15%. Le mélèze, qui est essentiellement planté suite d'ailleurs à un premier incendie, 8,2%. Le pin noir d'Autriche, planté dans la partie inférieure du bois, représentait 7,8%. Et 6,6%, donc presque 7% de la zone, était constituée de pelouses et d'arbrisseaux. Les données botaniques datant de 1984 et des relevés de 2006, effectués par Arnica Montana dans les secteurs épargnés par les flammes, nous ont permis d'avoir une bonne idée de la végétation du bois de France avant l'incendie. Au niveau des strates herbacées arbustives, on notera peu de différence entre les pinèdes et le mélézin, ce qui montre bien que la forêt naturelle de ce secteur est une forêt de pins sylvestres relayée en altitude par du pin crochet. Le retour d'une forêt de même type nécessitera de nombreuses années, car il est nécessaire de passer par plusieurs stades d'évolution de la végétation. Par exemple, si on abandonne une culture, cette culture va laisser place à une pelouse. Cette pelouse sera remplacée progressivement par une lande, c'est-à-dire une végétation d'arbustes et d'arbrisseaux, qui évoluera vers un bois clair, puis vers un bois plus dense lorsque les arbres pousseront. Et ça, évidemment, ça prend du temps, plusieurs dizaines d'années. Alors, comment s'est effectuée la recolonisation de la forêt après l'incendie? Dès 2004, notre association Arnica Montana commence un suivi de la végétation afin d'étudier la recolonisation de la biodiversité après l'incendie. Dans le secteur où le feu a été très fort, on n'observe plus aucune trace de végétation. Comme j'ai dit tout à l'heure, un désert de cendres. Quelques îlots d'arbres ont été un peu épargnés. Ils vont jouer un rôle important dans le retour de la faune et de la flore. Quelques plantes isolées, comme des pissenlits, de jeunes pieds de framboisiers, commencent à pousser sur ce sol calciné. Certaines orchidées, comme des épipactis, repartent très vite dès la première année à partir de leur partie souterraine. Dans certains secteurs où l'incendie était moins violent, la végétation repart plus rapidement avec, par exemple, de nombreux pieds d'ononis à feuilles rondes.
C'est parce que leurs racines, elles étaient plus profondes.
Elles étaient plus profondes et elles ont été épargnées. Certains végétaux ont la possibilité d'émettre des rejets à partir de leur appareil végétatif souterrain et peuvent repousser rapidement. C'est le cas d'arbres ou d'arbustes comme le sorbier des oiseleurs qui régénère de souches. Ils vont occuper une place importante dans la régénération. Et d'ailleurs, on peut distinguer dans les incendies, des incendies plutôt de cime, c'est-à-dire quand le feu se propage plutôt par la cime des arbres, le sol sera moins impacté. Mais quand l'incendie se propage au niveau de l'humus, là on peut s'attendre à ce qu'il y ait une épaisseur plus importante détruite au niveau du sol. Donc tout dépend de l'intensité du feu et du mode de propagation de l'incendie. Les plantes qui sont favorisées par la grande luminosité en absence de couvert arbustif et la dissémination de leurs graines par le vent occupent parfois des surfaces importantes. C'est le cas de l'épilobe à feuilles étroites qui pousse habituellement en lisière de forêt dans les clairières et qui là va recoloniser de larges secteurs, de grandes surfaces de cette forêt du Bois de France. En parcourant la forêt en 2004, j'ai eu la surprise de trouver en abondance une plante considérée comme rare et même très rare, l'ibéris du mont Aurouze, qui d'ailleurs est une plante protégée. Cette plante de la famille des choux forme de superbes coussins roses. Il s'agit d'une plante pionnière craignant la concurrence d'autres végétaux. Elle a profité de la destruction de la végétation pour occuper le terrain. Le suivi chaque année de stations de cette plante rare nous montre qu'actuellement, le développement de la végétation concurrence cet ibéris et entraîne sa régression. Les beaux coussins roses sont souvent remplacés par des tiges disséminées parmi les autres plantes. Nous avons mis en place en 2004 trois placettes de 1000 m² environ, dans lesquelles chaque année, à la même date, nous effectuons un inventaire de la flore et réalisons des photos afin de suivre l'évolution de la végétation. Dans ces trois placettes, nous avons observé une augmentation du nombre d'espèces de plantes les trois premières années, puis une légère stagnation suivie d'une diminution de la biodiversité due certainement à la concurrence entre les végétaux. Et actuellement, ça se stabilise. En 2006 et en 2014, des études complémentaires ont été effectuées dans le Bois de France grâce à deux étudiantes stagiaires qui sont respectivement Aurélia Duflou et Héloïse Blanchard. Et ces études, qui ont été très bien menées par ces stagiaires, nous ont permis de compléter nos données. En 2006, nous avons assisté dans l'ensemble du Bois de France à une véritable explosion de la végétation, avec un développement important de nombreuses touffes aux fleurs très colorées, formant de larges taches roses de saponaire, bleues de vesce, jaunes de lautier, etc. Un véritable jardin botanique.
Ça n'a pas mis tant longtemps que ça, du coup.
Alors là, c'est un premier stade, justement, de la recolonisation, qui n'a pas duré. Il s'agissait de plantes qui poussent habituellement dans l'épinette, donc présentes avant l'incendie, mais également de plantes de lumière qui profitent de l'ouverture du milieu. Chaque tapis de plantes occupait une surface bien plus grande que ce qu'elle occupait dans la forêt auparavant. Alors, comment expliquer ça? Lorsque la plante repousse, sans doute à partir de la germination de graines ou de parties souterraines, l'absence de concurrence lui permet de former de larges touffes ou de larges tapis. Une étude plus approfondie de la zone dévastée a pu être menée cette année-là, soit 3 ans après l'incendie, avec cette fois 21 placettes de relevés de végétation qui ont été installées. La comparaison de la végétation de la zone incendiée et des secteurs non brûlés a montré un développement important après l'incendie de plantes de la famille des pois, ce qu'on appelle les fabacées, dont le nombre d'espèces a pratiquement doublé. Ces plantes, dites pionnières, ont la particularité d'enrichir le sol en azote. Et cet enrichissement du sol en azote va servir d'engrais pour d'autres plantes qui s'installeront ensuite. Les plantes à bulbes, tubercules ou rhizomes, c'est-à-dire tiges souterraines, ont vu également leur proportion augmenter de façon significative par rapport aux autres plantes. Une décennie après l'incendie, en 2014, les relevés de terrain réguliers et les études approfondies montrent, selon les endroits, un développement plus important de la strate herbacée ou de la strate arbustive, ce qui conduit à un aspect en mosaïque de la végétation. Depuis 2006, la richesse spécifique est en légère diminution, dans le mélésin, la pinède accrochée, ou bien légèrement, relativement stable dans l'épinette sylvestre. On observe, en particulier dans l'épinette sylvestre, un renouvellement de la végétation avec régression, voire disparition des espèces pionnières, comme les fabacées, famille des pois, qui ont modifié la composition du sol, et l'apparition de nouvelles espèces, comme les astéracées, c'est-à-dire les plantes de la famille des marguerites, qui trouvent alors dans ce nouveau substrat un milieu favorable à leur croissance. Les observations actuelles confirment le retour de plantes caractéristiques des forêts de pins sylvestres, semblant préparer le retour de la forêt, et c'est ce que j'ai vu en particulier sur l'été 2020, où nous continuons donc nos suivis. L'observation actuelle du développement naturel de jeunes résineux en limite de forêt non brûlée et des îlots d'arbres épargnés par le feu laisse à penser que les arbres recolonisent lentement les milieux à partir de la périphérie et de ces îlots vers les îlots épargnés, vers le centre de la zone brûlée. De nombreux jeunes plants de mélèze ont été plantés après l'incendie, ce qui d'ailleurs semble un peu étonnant, étant donné que les facteurs du milieu, dont la nature du sol, sont plutôt favorables à la forêt de pins sylvestres. Et le mélèze, d'ailleurs, a besoin de beaucoup d'eau, il transpire beaucoup. Il n'aime pas les sols calcaires, parce que les sols calcaires sont très secs, il lui faut beaucoup d'eau au niveau des racines. Qu'est-ce que ça donnera? L'avenir nous le dira. Et nos études montrent également que ce sont bien des plantes de la forêt de pins sylvestres qui recolonisent le milieu. Comment la faune a-t-elle reconquis ce territoire dévasté par l'incendie? Dès 2004, nous avons noté la présence de lézards. L'augmentation du nombre d'espèces végétales fleuries, pollinisées par les insectes, et l'ouverture du milieu ont entraîné une augmentation importante de la biodiversité en insectes, notamment en insectes pollinisateurs, favorisant à leur tour la diversité végétale. Si la diversité de plantes entraîne une augmentation de la diversité d'insectes, qui augmente encore la diversité végétale. Nous observons de nombreux papillons avec des espèces rares et protégées comme l'alexandre. Ce papillon jaune veiné de noir qui ressemble au flambé mais avec des couleurs plus vives est cantonné en France à quelques territoires du sud-est. Le développement des reptiles a profité au cirque-aide Jean Leblanc, grand rapace chasseur de serpents qui pratiquement tous les après-midi utilise le secteur comme terrain de chasse. De nombreux petits passereaux s'aventurent dans la forêt brûlée en restant souvent à proximité d'îlots, d'arbres épargnés par le feu. C'est le cas du chardonneret, du pinson des arbres, du bruant fou, dont nous avons noté en 2006 un comportement reproducteur. Il est donc nécessaire de laisser quelques îlots d'arbres même brûlés en place pour favoriser le retour de ces oiseaux. Avec le développement des arbustes, de nouveaux oiseaux s'installent, comme la fauvette à tête noire, dont nous avons aperçu des mâles chanteurs en période de reproduction au sein de la zone brûlée. Si la vie animale et végétale reprend ses droits après l'incendie, avec une biodiversité parfois supérieure à celle d'avant l'incendie, il faudra encore au moins une vingtaine d'années, peut-être plus, avant que la forêt ne se réinstalle totalement. En plus de l'Ibéris du Mont-Rouge, plusieurs autres espèces animales et végétales rares, protégées, d'intérêt patrimonial, ont profité de l'incendie pour s'installer ou se développer. C'est le cas de la proserpine. Ce papillon, aux ailes présentant des taches et bandes noires sur fond crème, fréquente les milieux secs et ensoleillés. En France, on ne le trouve que dans le sud-est et l'Argentière l'ABC semble être sa limite la plus au nord. La présence de la proserpine est tributaire d'une plante méditerranéenne, l'Aristoloche pistoloche, qui peut se trouver jusqu'à 1500 mètres d'altitude dans les Hautes-Alpes. La femelle de proserpine ne pond que sur cette plante, dont les feuilles et fleurs nourriront ensuite les chenilles. Plante des terrains rocailleux, secs, calcaires, bien éclairés, l'aristoloche a profité de l'incendie pour coloniser le site, ce qui a permis à la proserpine d'étendre son aire de répartition. Le retour de la strate arborescente entraînera la fermeture du milieu et donc certainement la régression de l'aristoloche et de la proserpine. La marguerite de Saint-Michel ressemble à un grand aster aux pétales externes bleu-violacés et au cœur jaune. L'espèce n'est citée dans les Hautes-Alpes que dans quelques stations, d'ailleurs non retrouvées par des botanistes du XVIIIe au XIXe siècle. Puis la plante a été retrouvée en 1992 par une adhérente d'Arnica Montana, Suzy Chalier, au nord de l'Argentière l'ABC. La marguerite de Saint-Michel fut trouvée en abondance dans le bois de France après l'incendie. C'est une plante des endroits chauds, secs, sur sol calcaire, rocailleux. Ayant besoin de lumière et craignant la concurrence d'autres plantes, elle disparaît lors de la densification de la végétation. Elle a donc profité de l'ouverture du milieu par l'incendie pour se développer sur le site. Donc en conclusion, nous pouvons dire qu'un incendie de forêt est perçu comme une perturbation brutale, catastrophique du milieu. Après l'incendie, l'augmentation rapide de la diversité végétale et animale, avec des espèces pionnières, parfois rares, la succession de végétation aboutissant à l'état d'équilibre antérieur montre que les feux peuvent faire partie d'une dynamique cyclique à long terme de certains écosystèmes, contribuant à maintenir la diversité végétale et animale. Mais la répétition d'incendies dus à l'homme, favorisée par le réchauffement climatique, peut perturber cette dynamique et empêcher le retour normal à la forêt. Quelques secondes suffisent pour provoquer un incendie entraînant des dégradations qui mettront plusieurs dizaines d'années à cicatriser. Soyons donc prudents et ne faisons pas de feu en forêt.
Merci beaucoup.